Bonjour à tous. Voilà, je pense qu'on m'entend. Je m'entends dans les retours. Merci à tous de venir aussi nombreux pour la rencontre avec Anna Starobinets, qui est située juste à ma droite. Et nous avons discuté de son œuvre, de son travail d'écriture, de ses différents ouvrages, dont principalement Le Vivant, qui est nominé pour le Grand Prix européen des Utopiales et qui touche pour beaucoup à la thématique de la machine, qui est le thème de cette année. Et nous allons tout d'abord commencer par une petite question. Comment tu as découvert le fantastique, la science-fiction et tous ces genres de l'imaginaire ?
Да, добрый день.
А как вы будете?
Я сделаю последний.
Сначала я хотела бы поблагодарить организаторов фестиваля за то, что меня позвали на него. Это очень интересный опыт. Практически никогда со мной такого не случалось. Ни на каком фантастическом конвенте за пределами России я не оказывалась. Что касается этого вопроса... В общем-то, всегда я писала... То есть все мои тексты, они устроены таким образом, что находятся на стыке фантастического и реального. Такую сугубо реалистичную прозу я не пишу вообще. Ну, вдохновлялась я с детства авторами, скорее из англосаксонской традиции. Это Брэдбери тот же. Из более современных я очень люблю Нила Геймана. Уважаю очень Стивена Кинга. Также люблю Исигуру, например. Мне кажется, что вот Исигуру и Нил Гейман — это те авторы, которые тоже пишут так на грани фантастики и реализма.
Bonjour. Tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs de m'avoir invité ici. Super intéressant. Il faut dire que c'est une première pratiquement pour moi. Je n'ai jamais assisté à un festival comme celui-ci. Je n'ai jamais été invitée dans des festivals comme celui-ci hors des frontières de la Russie, en particulier pour l'imaginaire. J'ai peut-être été invitée à d'autres festivals littéraires, mais pas pour la littérature de l'imaginaire. Donc, depuis toujours, tous les textes que j'écris sont à la frontière entre le réel et le fantastique. Je n'ai jamais écrit de texte complètement réaliste. Quant à mon inspiration, ce qui m'a inspirée, ce sont plutôt des auteurs de culture anglo-saxonne. Donc Bradbury avant tout, mais aussi Neil Gaiman, Stephen King est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et Sigour, par exemple. Et pour moi, Neil Gaiman et Sigour sont des gens qui écrivent de la même façon, sur cette frontière qu'il y a entre le réel et le fantastique, et l'imaginaire.
Et comment est-ce que tu écrivais dès le départ? Tu as toujours envie d'écrire? On sait que tu es journaliste. Et quand as-tu commencé à vouloir écrire de la fiction?
Да, я не только журналист, я еще и сценарий пишу вот сейчас. Но что касается литературы, в первый раз я решила, что я буду ее писать, когда мне было 5 лет. Мой папа, ученый, геофизик, написал книгу, когда мне было 5 лет, научную. И принес ее домой. И по какой-то причине меня это вызвало дикую ревность. Я сказала, что нет, папа, писатель — это я у нас в семье, а не ты. И написала сказку про трех лягушек. Суть которой сводилась к тому, что жили-были три лягушки, красная, зеленая и желтая. У них была одна подушка, они не могли поделить ее между собой. Но в итоге победила все-таки красная, потому что красные всегда побеждают. Это был такой пример советской пропаганды в моем детском саду.
Je ne suis pas seulement journaliste, je suis également scénariste depuis peu. Alors, quant à la littérature, ma première envie d'écrire un livre, c'était à 5 ans. Alors, voilà comment ça s'est passé. Mon papa, qui est géophysicien, qui est scientifique, a écrit un livre quand j'avais 5 ans et il a rapporté ce livre qui avait été publié donc à la maison. Et là, j'ai ressenti une jalousie foudroyante et j'ai décrété « Papa, l'écrivain de la famille, ça n'est pas toi, c'est moi ». Et donc, je me suis empressée d'écrire un livre qui s'appelait « Le conte de trois grenouilles ». C'était donc ma première œuvre. Alors, voici le bref résumé de cette œuvre. Il était une fois trois grenouilles, une rouge, une jaune et une verte, qui ont du mal à partager un oreiller. Alors, ils se livrent une bataille pour partager cet oreiller. Et c'est la rouge qui finit par l'emporter, parce que les rouges l'emportent toujours. Donc, un conte propagandiste soviétique, n'est-ce pas, qui a eu un grand succès dans mon école maternelle.
Но что касается уже так, если серьезно говорить, то первую свою книгу я написала, это был сборник фантастических рассказов, назывался «Переходный возраст», и я написала ее в 2004 году, когда родила своего первого ребенка и испугалась, что навсегда стану домохозяйкой.
Alors, plus sérieusement, j'ai écrit mon premier livre qui était un recueil de nouvelles et qui s'appelait, qu'on pourrait appeler l'adolescence ou l'âge de transition. Hein, il a été publié en 2004 et c'était l'année de naissance aussi de mon premier enfant. C'était le moment où j'ai donc eu peur de devenir une ménagère.
Et on sait qu'en France, on te connaît surtout pour un premier recueil qui s'appelle « Je suis la reine ». Qui regroupe des textes courts. L'envie d'écrire des textes courts, c'était par facilité de format ou c'était par goût pur de la forme?
Так просто, мне кажется, слушать так долго мою русскую речь. Это и есть та самая книжка, которая в России называлась «Переходный возраст», а на французском она вышла вот под таким названием «Я королева». Ну, что касается формата, вообще мне очень нравится жанр короткого рассказа. Мне кажется, что в этом смысле короткая дистанция, она в каком-то смысле сложнее, чем длинная. Потому что автору, который писателю, да, который бежит вот на короткую дистанцию, тем не менее, нужно выполнить ту же задачу, которую выполняет другой автор, который бежит длинную дистанцию. У него на это меньше времени, у него меньше технических возможностей. Тем не менее, он обязан рассказать историю от начала и до конца, чтобы в ней был смысл и была какая-то красота, какой-то второй, там, какой-то подтекст, да, на очень таком вот коротком промежутке. И мне кажется, что тот же Брэдбери является как раз идеальным примером таких вот историй коротких, каждую из которых теоретически можно развернуть в роман любой длины.
Alors, effectivement, ce livre, c'est justement mon premier livre qui a été traduit comme Je suis la reine en français, mais qui s'appelait donc L'âge de transition ou l'adolescence en russe, ce recueil. Quant aux histoires courte quant à ce format, effectivement, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, que j'adore, parce que quelque part, je trouve que c'est un exercice aussi difficile, voire plus difficile qu'une histoire plus longue, parce que c'est un peu comme un sprint, en fait. On a le même objectif que pour une œuvre plus longue, mais avec un temps beaucoup plus réduit, un format beaucoup plus concentré, donc des possibilités techniques aussi réduites, et pourtant, l'écrivain se doit d'insuffler à cette œuvre courte du sens, une certaine beauté, un certain sous-texte. Et je pense que de ce point de vue, Bradbury est probablement l'exemple idéal de ce genre d'œuvre où n'importe quelle de ses nouvelles, n'importe laquelle de ses nouvelles pourrait être étendue et transformée en roman de longueur désirée, disons.
Concernant la durée d'écriture d'une nouvelle, entre l'idée et le texte fini, ça te prend combien de temps à peu près?
Ну, это, конечно, зависит от рассказа. Они бывают разные сложности. В принципе, Я с одной стороны человек ленивый, мне чтобы вообще сесть и начать чем-то заниматься, нужно очень долго раскачиваться. Я буду пить кофе бесконечно там с ребенком играть, гулять, пойду кино посмотрю. Но когда я уже села, я пишу очень быстро. В принципе, один рассказ такой я могу написать за 3 вечера, например. Но это если мне дадут 3 вечера полностью, и каждый вечер будет состоять из 6 часов.
Alors, bien sûr, tout dépend de l'histoire. Il y a des histoires qui présentent une difficulté assez variée. Hein. Mais dans l'ensemble, je suis quelqu'un d'assez paresseux. Une fois que je décide d'écrire une histoire, eh ben, il me faut du temps pour me mettre en condition. Et cette mise en condition peut considérer à boire du café, à jouer avec mon enfant, à aller me balader ou aller au cinéma. Et ça peut durer un certain temps, tout ça. Mais enfin, une fois que je m'y mets et que je m'assois, que je m'installe avec mes outils de travail, eh bien, j'écris généralement assez vite. Donc, si on me laisse, par exemple, 3 soirées de tranquillité complète, qui durent à peu près 6 heures chacune, je peux écrire une histoire comme ça en 3 jours.
Et sur, par exemple, l'envie d'écrire des romans, un vrai roman, combien de temps ça te prend en termes d'écriture, d'idées? Est-ce que ta méthode de travail est sensiblement différente à celle d'écrire des nouvelles?
Нет, это совсем несопоставимо, потому что, ну, как я уже сказала, сборник рассказов теоретически я могу написать там за, если очень напрягусь, за 2-3 месяца. Каждый из вот этих романов я писала год. Из этого года примерно полгода уходило на разработку структуры этой истории, да, и еще полгода непосредственно на написание текста.
Alors, quant au roman, c'est tout à fait différent. Ça ne ressemble pas à la façon dont j'écris des nouvelles. Comme je viens de vous l'expliquer, un recueil de nouvelles comme celui-ci, l'écriture me prend plus ou moins 2-3 mois, si on m'en laisse le temps, par ailleurs. Quant au roman, chacun des romans qui sont sur cette table a occupé 1 an de ma vie, 6 mois à peu près pour la construction, pour la réflexion, la structure, la conception de la structure, disons, de l'œuvre, et puis 6 mois pour l'écriture.
On va parler du coup de votre roman Le Vivant, qui est nominé pour le Grand Prix des Utopiques cette année, qui frôle justement sur cette notion d'anticipation et de science-fiction et de réalité. D'où t'es venue l'idée du vivant? Et comment tu pourrais le décrire au lecteur?
Ну, во-первых, «Живущий» — это, собственно, единственная написанная мной книга в жанре, близком именно к sci-fi, к научной фантастике. Остальное у меня скорее такое в мистическую сторону. Как пришла идея? Мне просто кажется, что... сейчас, давайте не так... Оруэлл в какой-то момент, если я не ошибаюсь, это был именно Оруэлл, говорил, что писатель, он выступает в роли канарейки в шахте. Канарейку, как известно, раньше брали в шахту, потому что она очень тонко чувствует звуковые колебания, в общем, может предсказать катастрофу в шахте, и когда она начинает кричать, нужно срочно вылезать на поверхность. А писатель, он делает примерно то же самое иногда, если он пишет антиутопию. Он предупреждает, пытается предупредить читателя о некой надвигающейся угрозе.
Alors, Le Vivant est la seule de mes œuvres qui est proche de ce qu'on pourrait appeler de la science-fiction. Le reste est plutôt plus mystique. Comment je pourrais décrire l'apparition de l'idée de ce livre? Il me semble que c'est Orwell qui disait que l'écrivain est un peu comme un canari dans une mine. Vous savez peut-être qu'on amenait à l'époque des canaris à l'intérieur des mines parce qu'ils ont une ouïe très fine et une sensibilité très fine en tout ce qui concerne les sons, les oscillations de l'air, etc. Et donc qui peut prévenir d'un danger. Eh bien, un écrivain, lorsqu'il écrit une dystopie, est un peu dans le cas de ce canari qui essaie de prévenir les autres humains d'un danger imminent.
В чём именно угроза? Мне кажется, что это чувствует уже сейчас совершенно любой из нас. Вот тот новый дивный мир интернета, который нам открылся, да, в 21 веке, и который сначала был воспринят всем человечеством как такое пространство абсолютной свободы. Ты можешь там делать, что хочешь, узнать, что хочешь. Больше не нужно ничего держать в голове, все это есть, где-то хранится. Да? Ты можешь прийти туда инкогнито. В общем, свобода по полной программе. На самом деле эта свобода, как уже теперь ясно, оборачивается тем, чем всегда оборачивается иллюзия тотальной свободы, то есть на самом деле скорее тотальным контролем, потому что это также пространство, которое в итоге тебя, с одной стороны, засасывает психологически, твое время больше тебе не принадлежит. Ты тонешь как бы в этом потоке информации, в этом общении с ненастоящими людьми в сети. Это психологически. Да, ты теряешь память, потому что есть даже научные исследования, которые говорят о том, что современный человек, когда он получил возможность не запоминать, например, номера телефонов, он просто их больше никогда не помнит. Или какие-то даты, или какие-то факты. Он лезет за ними в интернет, а голова у него пустая. А с точки зрения такого более тотального, да, контроля, ну, то же самое, там наши кредитные карты, наше перемещение по миру. На самом деле через эту систему можно контролировать человека полностью, от и до. Поэтому я написала, я придумала такой образ человечества, которое слилось в результате подключения интернета непосредственно в мозг. Человечество слилось в единый живой организм. По типу такой, как бы муравейник, да, по типу интеллектуальных насекомых.
Alors, quelle est cette menace dont je cherche à alerter, hein? Eh bien, je pense que tout le monde maintenant se rend compte des dangers ou des menaces qui peuvent représenter le monde de l'Internet, la vie en réseau, hein, qu'au début du XXIe siècle, on voyait comme un espace de liberté absolue, liberté totale, hein, puisqu'on pouvait faire ce qu'on voulait, apprendre tout ce qui nous intéressait, stocker des choses, s'en servir comme une sorte de mémoire extérieure, finalement. On pouvait y être, a priori, anonyme, donc ça paraissait un espace de liberté absolue, et comme toute illusion de liberté absolue, ça nous montre son autre face, qui est la face du contrôle total, puisque d'abord, notre temps ne nous appartient plus, on passe notre temps à communiquer avec ces êtres plus ou moins virtuels, finalement. On s'y noie complètement. Il y a une sorte de perte de mémoire, parce que tout le monde sait que la meilleure façon d'oublier quelque chose, c'est de le noter ou de le stocker ailleurs, comme les numéros de téléphone, les dates, les faits. On a constaté qu'avec l'apparition des moyens électroniques de stocker l'information, eh bien, la mémoire des humains connaît quelques difficultés. Et puis, il y a un autre genre de contrôle lié à nos cartes de crédit, à l'information qu'on peut stocker quant à nos déplacements. Donc, finalement, tout ça, ça m'a poussé à inventer ce monde où toutes les personnes, tous les êtres humains sont reliés à Internet, en gros, par une connexion qui est implantée directement dans le cerveau. Et ça mène à ce que se forme un seul organisme, finalement, un seul organisme vivant. Tous les êtres humains sont cet organisme vivant. Sur le modèle, par exemple, d'une fourmilière géante habitée par des animaux intelligents.
Et en termes de style, quand tu écris pour ceux qui n'ont pas ouvert le livre ou qui ne connaissent pas, jeter un petit coup d'œil, tu t'amuses stylistiquement à construire et déconstruire sur plusieurs niveaux les communications, en stratifiant les différences entre les communications du réseau et les communications réelles. Comment tu... C'était une idée que tu avais dès le départ de mêler les différents médiums, enfin les différents canaux de communication, ou c'est venu en cours d'écriture?
Да, я сразу и совершенно намеренно устроил этот текст по такому же принципу, по которому, собственно, существуют персонажи, которые его населяют. А персонажи вот у этого организма человечества такого единого, есть несколько слоев как бы их восприятия. Начиная от самого примитивного, то есть такого, ну, то, что ты видишь на улице, да, и до неких очень глубоких слоев вот этой виртуальной реальности, до которых доходят, способны дойти далеко не все, а только самые, вот, что ни на есть, мудрецы. То есть такое же погружение, как дао просто, вот в эту, в глубину виртуального пространства. Это сложно устроенный текст, потому от читателя действительно требуется поначалу совершить, ну, усилия для того, чтобы вникнуть вот в эту систему восприятия. Да? Но когда он уже в нее вникает, то там это, правила игры довольно простые.
Alors, c'est dès le début de l'écriture de roman que je me suis décidée à construire en fait les interactions entre les personnages de la même façon que sont que l'hiérarchie des personnages qui existent dans ce vivant, où finalement il y a plusieurs strates effectivement de communication et de réalité, si on veut, du plus primitif, si on peut dire, c'est ce qu'on voit dans la rue. Et puis ensuite, jusqu'aux strates des plus en plus profondes, où finalement, seuls les plus sages arrivent à s'y immerger. Hein. Et donc, la construction du texte est relativement complexe, pour le coup. Et ça demande au lecteur un effort pour percer à jour cette construction au début. Mais lorsqu'on s'y repère, finalement, les règles du jeu à l'intérieur sont assez simples.
Non. Но на эту идею устроить текст вот по такому принципу со слоями меня натолкнула одна российская телепродюсер, с которой я обсуждала свой сценарий. И вот мы обсуждали какую-то сцену, и она сказала: нет, вот для нашего зрителя, для этой вот женщины 45+, это вы предлагаете слишком тут целых три слоя, нет, четыре слоя реальности. Я говорю, а это был абсолютно элементарный сценарий, элементарная история. Я спросила, о каких слоях реальности вы говорите. Говорит, ну как же, с одной стороны, у женщины есть ее реальность, вот ее дом, вот она суп варит, детей кормит. Это первый слой реальности. Второй слой реальности — это ваша собственная история, это наш фильм. Третий слой реальности — это рекламные перебивки. А вы еще предлагаете сделать какие-то отсылки к прошлому героев. Это уже четвертый слой реальности, это слишком много. Вот тогда я подумала, что да, это вот какая-то фатальная штука происходит с человеческим мозгом, если он действительно не способен воспринять вот такие вот слои реальности. И это натолкнуло меня на идею построить текст именно так.
Je voudrais vous raconter comment est née cette idée des strates, en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, j'étais avec la productrice télé avec laquelle on travaillait sur la création de mon scénario pour le film, hein, parce que je vous ai dit que j'étais également scénariste. Et alors, j'ai proposé une idée à la productrice. Et à ce moment-là, elle a dit « Non, cette idée n'est pas envisageable, parce que pour notre cible, qui est la ménagère de 45 ans et plus, hein, c'est trop compliqué. Il y a déjà 4 strates dans votre histoire. » Je lui ai demandé « Mais comment ça, 4 strates? De quoi vous parlez ?» Elle a dit « Eh bien, il y a la première strate qui est bon, voilà, que la personne est chez elle, qu'elle est en train de préparer la soupe. Voilà, c'est sa réalité. La deuxième strate, c'est l'histoire qu'on lui raconte, c'est notre film. La troisième, c'est les coupures publicitaires. Et vous proposez maintenant d'ajouter une quatrième strate qui serait des références au passé du personnage, au passé du héros. Ça, c'est trop compliqué. Ça ne va pas être possible. » Et là, je me suis dit, mais où va-t-on? Mais qu'est-ce qui arrive à notre esprit si ce genre de strate n'est pas... comment dire, compréhensible ou ne sera pas compris par mon spectateur. Et donc c'est à ce moment-là que cette idée de strate m'est venue.
Dans ton roman, le héros s'appelle Zéro. C'est une anomalie pour le système qui est la superstructure qui contrôle et dirige l'humanité, qui contrôle aussi la population. Comment t'es venue l'idée d'introduire ce personnage de Zéro et comment tu l'as construit ?
Ну, это как раз классическая такая антиутопическая схема по типу той же «Матрицы», да, когда есть некоторая глобальная система, да, и один персонаж, который в нее не вписывается, как бы вот то, что называется в «Матрице» «the one», вот тот человек, который кажется, что самой судьбой призван к тому, чтобы эту систему сломить, переломить. Он у меня называется «Зеро», то есть «Ноль», по той причине, что там в этом слившемся организме все пронумеровано. У него номера нет, он родился, вот так получилось, без подключения к этой системе, поэтому вынужден ей противопостоять. Но, как и во всякой антиутопии классической, он эту схватку на самом деле не выигрывает, а проигрывает. То есть он все ломает по ходу дела, да, но сам он не герой, он как бы тоже... Все равно одна из случайных шестеренок. Просто он не внутри, а снаружи эта шестеренка вертится.
Alors, finalement, ça, c'est quelque chose d'assez classique hein, dans les dystopies, comme il n'y a qu'à se souvenir de Matrix, hein, de la saga Matrix, où on a aussi cette sorte de système global et un personnage qui ne s'inscrit pas complètement dans le système, qui est hors du système, et on a l'impression que son destin, c'est de briser finalement ce système ou d'introduire ce grain de sable dans la machine. Mais alors, pourquoi il s'appelle Zéro, mon personnage ? Eh bien, c'est parce que dans ce système, le vivant, chaque personne a son numéro d'identification et c'est un numéro unique. Et ça, c'est un personnage. Mon personnage, il naît sans numéro. Il n'est donc pas rattaché au système dès le départ. Donc, effectivement, il a cette spécificité. Et donc, effectivement, il va lutter contre ce système. Il va tout casser. Mais au final, ça n'est pas un héros. C'est comme dans toutes les dystopies. Hein. Ça n'est qu'un rouage du système, mais finalement, un rouage qui n'est pas à l'intérieur, mais à l'extérieur.
Tu t'attardes beaucoup sur tes nouvelles, sur l'enfance et aussi dans le vivant. On parlera du refuge juste après. Le thème de l'enfance et de la construction de la personne, de cette quête d'identité est très présente dans ton œuvre. Est-ce que c'est récurrent pour toi et très nécessaire de vouloir parler d'identité ? De vouloir parler du thème d'identité ?
Да, безусловно. У меня очень интересна тема даже не столько детства, сколько перехода, вот этого момента перехода из детства в подростковое состояние и дальше во взрослость, потому что это потрясающая метаморфоза, на самом деле, которая происходит и с телом человека, и с душой, и с сознанием. Мне просто действительно очень интересна тема всяческих метаморфоз. Вот, но поскольку уж мы не превращаемся там из гусеницы в бабочку, единственное, что с нами такое происходит, это вот это взросление. Я люблю в этом покопаться, да.
Alors effectivement, c'est un sujet qui m'intéresse énormément, pas tant l'enfance que effectivement la transition, le passage par l'adolescence vers l'âge adulte, parce que c'est une métamorphose incroyable, formidable. C'est le moment où notre corps change, où notre âme, notre esprit évolue. Et cet aspect justement de métamorphose, de transition m'intéresse énormément. Et puisque nous ne sommes pas des chenilles qui nous transformons en papillons et que la seule métamorphose finalement que nous connaissons, c'est celle-là, et bien c'est à celle-là que j'attache le plus possible mon intérêt.
On va parler, pour faire une petite transition, de Refuge 3/9. Ton dernier roman publié en France, mais qui a été écrit avant Le Vivant, si ma mémoire est exacte. Et on aborde ce thème de la métamorphose continuelle et progressive. Le Refuge 3/9 est un voyage aux frontières entre le fantastique et la réalité, avec des changements d'état, des transformations corporelles, des transformations identitaires, et qui réintègre des personnages de contes assez célèbres, qu'ils soient russes ou plus européens. Comment t'es venue l'idée de ce livre Refuge 3/9 ?
Мне казалось всегда, да, в этой книге очень активное участие принимают персонажи, скажем так, славянской мифологии, даже не фольклора, потому что меня всегда тревожило, что они как-то не совершенно несправедливо забыты. У нас очень популярны именно русские сказки, такие для детей, где есть типичные персонажи, ну, несколько лубочные, там, бабка, ёжка, Кощей Бессмертный, любой ребенок их знает. На самом же деле в исконной славянской мифологии это жутко страшные, хтонические такие твари. И мне захотелось написать книгу, в которой я, ну, в числе прочего, да, как-то сорву с этих мифологических персонажей их вот эти такие детсадовские нарисованные маски и покажу их во всей их вот такой глубине, покажу, что они страшны, что они сложны, да, и что они могут составить конкуренцию мифам, в принципе, там, любых других народов. Такая у меня, это была одна из моих задач.
Alors, effectivement, dans ce livre, des personnages qui sont très présents et très actifs, c'est des personnages du folklore slave. Je dirais même pas du folklore, mais plutôt de la mythologie slave. Puisque ce sont des personnages qui, à mon sens, sont injustement oubliés, ont été injustement oubliés. Chaque enfant en Russie connaît Baba Yaga, connaît Cachet l'Immortel, mais qui ont finalement acquis... un visage presque mignon, parce que c'est quelque chose qui est présent dans des contes pour enfants. Et moi, je sais que dans la mythologie slave, ce sont des personnages qui sont à la fois complexes et réellement horribles, qui ont vraiment cette dimension épique. Et j'ai voulu donc leur arracher ce masque de livre de contes pour enfants et les présenter dans toute leur horreur, mais aussi dans toute leur complexité, et montrer qu'ils pouvaient concurrencer peut-être presque les personnages de mythologie grecque, par exemple.
Et ces personnages, justement, on pense aux héros, on pense à Marie, Joseph et le garçon. Marie qui se transforme, qui devient tout à tour une femme, un homme, qui évolue. Comment t'es venue l'idée de les transformer, de les faire se transformer et, c'est quoi l'intérêt pour toi d'avoir ce, narrativement ce genre de transformation et d'outils stylistiques?
Non, Это тоже такой сказочный момент оборотничества, не знаю, как вы. То есть одна из таких тоже традиционных ситуаций, повторяющихся не только в русском фольклоре, но и в европейском, естественно, это когда персонаж перекидывается в нечто другое, там, оборачивается волком, оборачивается медведем. Считается, что высший пилотаж оборотничества — это когда один человек оборачивается другим человеком. Я использовала этот мотив, то есть у меня там есть вот такая линия совсем сказочная, а есть линия реальности. И в линии реальности я все равно персонажа подталкивала вот к таким сказочным ситуациям, потому что одна из идей этого текста заключается в том, что сказочный скелет, то, как устроена сказка, да, сказочная история, это универсальный такой скелет. И что с нами в жизни, да, происходит все в итоге по той же схеме, что как ни крути, а есть добро, есть зло. Ну, есть, конечно, понятно, что и нечто среднее, да, но мы в итоге все равно выстраиваем свою жизнь, да, как по каким-то лекалам таким. А эти лекала в нас закладываются с детства. То есть в данном случае те сказки, которые мы читаем в детстве, мы продолжаем отыгрывать каким-то образом и во взрослой жизни тоже.
Alors, ça aussi, c'est quelque chose qui vient des contes, du folklore, hein, cette capacité à se transformer, hein, ces personnages qui se transforment. Je pense que le folklore russe n'est pas le seul où ce genre de personnage est présent. Il n'y a qu'à voir les loups-garous ou les personnages qui se transforment en animaux. Et alors, pour ce genre d'être, le top du top, c'est quand on peut se transformer en un autre être humain, finalement. Et donc, dans mon roman, il y a deux lignes, disons, de narration. Une ligne qui est plus dans la réalité et une ligne qui est plus dans la fiction. Et même dans celle qui est le plus dans la réalité, je pousse quand même, finalement, mon personnage comme ça vers les contes et vers la fiction. Et ce qui en découle, finalement, c'est qu'il y a une sorte de squelette, une sorte de schéma qui existe dans les contes des fées, hein, et dans le folklore, et qui reste finalement proche des schémas selon lesquels finalement se déroule notre vie réelle, parce que quelle que soit la façon dont on y réfléchit et dont on le prend, il y a le bien, il y a le mal, bon, il y a toutes sortes de nuances entre les deux, mais en tout cas nous construisons notre vie selon un certain chemin. Et ces chemins, ça nous vient finalement des contes qui ont été racontés dans notre enfance. Et voilà. Et donc la vie des personnages se déroule selon ce schéma.
En allant dans le pays du conte, justement, tes personnages suivent une réalité qui a l'air très dure en sous-texte, qui a l'air de s'inspirer de beaucoup de réalités sur des migrations, sur des tensions politiques. Je pense aux tensions politiques russes, par exemple, qu'on met en sous-texte. Est-ce que c'était un cadre que tu avais choisi ou c'était juste un artifice pour s'échapper vers ce monde de conte?
Нет, мне просто на самом деле не интересны чисто сказочные сюжеты, как я уже сказала вначале, чисто фантастические. Я люблю как-то балансировать на грани, и, безусловно, если я работаю с каким-то с реальной жизнью, то там у меня будут отражены и все приметы этой реальности, да, начиная от политической ситуации, заканчивая какими-то там бытовыми деталями. Поэтому нет, это не случайность, это просто, мне кажется, что все должно быть по-честному.
Alors, comme je vous l'ai déjà dit, la réalité pure ou la fiction pure ne m'intéresse pas tellement. Ce qui m'intéresse, c'est cet équilibre sur la frontière entre les deux. C'est ça que j'aime. Et donc, logiquement, lorsque je parle de la réalité, eh bien, elle a tous les attributs de notre réalité. Je vais parler de politique, je vais parler du quotidien aussi. Et ce n'est pas un hasard. Il faut que tout soit honnête. Si on parle de la réalité, eh bien, on en parle honnêtement.
Et comment tu... dans le milieu du conte, tu arrives... on se retrouve avec des petites citations parfois. C'était important pour toi de faire des petites citations de comptines ou de contes avec des petites notes référentes pour ne pas perdre le lecteur.
Да, конечно, это мне эти вот отсылки к разным сказочным текстам, да, реальным и, кстати, нереальным тоже. Они помогали создать такую, так же как вот реальность, с ней все понятно, ты знаешь, из чего она состоит, а создать вот эту параллельную сказочную вселенную, для того чтобы ее создать, нужно тоже на что-то опираться. Вот для меня этой опорой были всевозможные тексты там из европейских там сказок, я что-то брала из русских, также я брала, например, текст старинных заговоров магических, там бывает заговор на смерть, заговор на любовь, очень страшные, кстати, тексты, очень хорошо звучат. Также там есть, но среди этого всего там есть и выдуманные отсылки, то есть там есть, например, стихотворные строки, которые там как-то они у меня названы, на самом деле я сама их написала, я специально так сделала, чтобы было непонятно, где что, да, но в итоге мне показалось, что получилось сделать такую ткань сказочную, на которую вот можно, такую плотную ткань, на которую можно опереться.
Alors, bien sûr, ces références à des contes, d'ailleurs, quelquefois, ce sont des contes qui ont existé et quelquefois, ce sont des contes que j'ai inventés au fil de l'eau, étaient très importants pour moi. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a, comme je vous disais, la réalité et la fiction. Dans la réalité, tout est clair, nous connaissons la réalité. Dans le monde fictif, dans le monde du conte, dans mon livre, il fallait aussi avoir cette base, pouvoir s'appuyer sur quelque chose. Et pour moi, ces références à la fois à des contes européens, à des contes russes, mais aussi à des formules magiques dont certains concernent l'amour ou la mort et qui sont assez terribles, les textes assez beaux et à la fois terrifiants. Et bien, ces références étaient très importantes. Il y a parmi elles quelques références inventées. Donc j'ai écrit une petite comptine ou un petit poème et j'ai noté la référence à une œuvre qui finalement est inventé, mais pour moi, tout ça, ça crée une sorte de tissu, une sorte de matière sur laquelle on pouvait ensuite s'appuyer pour raconter l'histoire.
Et parmi ces personnages de contes que tu as réinventés, réécrits, lequel préfères-tu et si oui, enfin, lequel préfères-tu et pourquoi?
Oui, il y a des любимчики. Je l'aime больше всех люблю Бабу Ягу. Потому что Баба-Яга это самый такой, потому что она самая сложная. неоднозначная. Она устроена таким образом, этот персонаж устроен таким образом, что в зависимости от настроения, там, как бы как звезды лягут, она может человека убить, может его, наоборот, положить спать, накормить или, наоборот, зажарить. Ты никогда не знаешь, что, чего от нее ждать. Да? Потом она так очень эксцентрично себя ведет, ругается матом. У нее спит в гробу, кстати. Ну, то есть в детских сказках это вообще Баба-Яга. То есть вот это вот тот персонаж, к которому она восходит, да, она ночью ложится в гроб и спит с открытыми глазами. В общем, она и страшная, и сложная, и такая как бы импульсивная дама, поэтому очень мне нравится она.
Alors, oui, j'ai des chouchous. Et mon plus gros chouchou, c'est Baba Yaga. Alors, pourquoi Baba Yaga? Parce que c'est le personnage finalement le plus complexe, le plus équivoque, qui a le plus de facettes hein, dans cette histoire. C'est un personnage qui, en fonction de son humeur et de la disposition des étoiles dans le ciel, peut vous tuer ou vous chouchouter, vous offrir un bon lit et un bon repas, ou bien vous cuisiner pour son repas. Hein, c'est un personnage excentrique qui peut parfois se montrer grossière, qui dort dans un cercueil, bon, pas dans les contre-russes, mais dans mon histoire, elle dort dans un cercueil avec les yeux grands ouverts. Hein. C'est à la fois un personnage terrifiant, complexe, insolite. Bon, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup.
J'ai encore deux petites questions à te poser. Avant de passer la parole au public pour poser des questions, on va vous faire participer un peu quand même, c'est le but aussi. Ma première question, c'est quels sont tes projets d'écriture, qu'elles soient scénaristiques ou romancières. Et ma deuxième concernera la thématique du festival.
Ну, у меня на самом деле книг просто гораздо больше, чем вот тут лежит, чем три. У меня их сейчас 8 уже вышло. В настоящее время я еще и пишу для детей. Детей я не пугаю до инфаркта, я их не довожу. Для них я пишу так повеселее, но тоже иногда пугаю, но не настолько. Вот. И у меня есть проект, который называется «Зверский детектив». Надо как-то эту игру слов показать. Не звериный, а именно зверский. Это детектив, он устроен полностью по детективному канону, но там есть там, круг подозреваемых, следователь, убийцы, улики, вот все, что надо, но просто действие происходит в лесу, и там персонажи все антропоморфные звери. Там следователь барсук, пожилой барсук, ему помогает такой барсукот, не определившийся до конца, кто он, барсук или кот. Вот. И это как бы такой книжный сериал. Вот сейчас я написала 4-ю книгу. Наверное, буду еще продолжать.
Alors, en réalité, ce qui est posé sur cette table ne présente pas la totalité de mes livres publiés. J'ai déjà publié 8 livres en tout. Et j'ai également commencé à écrire pour les enfants. Et ça, c'est en parlant de mes projets. Alors, je ne fais pas aussi peur aux enfants qu'aux adultes. Il n'y a aucun enfant encore qui a eu un infarctus en lisant mes livres, et j'espère que ça n'arrivera pas. Bon, je leur fais quelquefois peur, mais rien qu'un tout petit peu. Hein. Alors, en ce moment, je suis sur l'écriture d'une série qu'on pourrait après appeler les thrillers des bêtes, et justement pas des animaux, mais bien de bêtes. Donc, c'est des thrillers, hein. Il y a des suspects, des meurtriers, des policiers, ou en tout cas des enquêteurs qui enquêtent sur ces meurtres. Alors tous les personnages sont des animaux anthropomorphes. Hein. Par exemple, l'enquêteur principal est un blaireau. Il y a une sorte de chat blaireau qui l'aide dans ses enquêtes. J'ai déjà écrit 4 livres et je compte poursuivre cette aventure.
Ma deuxième question était par rapport à la thématique du festival. Le thème est la machine. Quelle serait la machine de science-fiction que tu aimerais voir être créée et exister ?
Ну, это два разных вопроса на самом деле. Вообще машины, они меня скорее пугают. Ну, в таком большом понимании, да, понятно, что автомобили я люблю, сама на них езжу, да, но вот машины в том смысле, в каком мы говорим, я бы скорее не хотела видеть в нашей реальности воплотившимися. Но, конечно, это очень сильный всегда как бы какой-то образ, который придумывают там, неважно, режиссер или писатель. И у меня есть одна любимая история. Я даже думаю, вдруг вы мне... В общем, это история, которую я прочитала в детстве. Это фантастический рассказ. Я не помню имя автора этой истории. Я много лет искала, пыталась понять, кто же написал этот рассказ, так и не нашла. Вдруг вы знаете. Вот сейчас расскажу.
Alors là, finalement, ces deux questions en une. D'abord, les machines au sens large, les machines telles que présentées ici, c'est quelque chose qui me fait plutôt peur. Bien sûr, je n'ai rien contre les automobiles, par exemple. J'en conduis une, j'adore ça. Mais si on parle de machines telles qu'elles sont présentes dans la science-fiction, je ne souhaiterais pas voir dans la réalité. Je ne souhaiterais voir dans la réalité aucune de ces machines, finalement. Mais quant à celles que j'apprécie dans la littérature, eh bien, il y a quelques images très fortes, hein, que ce soit dans le cinéma ou dans les livres qui sont présentes. D'ailleurs, là, vous allez peut-être pouvoir m'aider. Il y a une nouvelle que j'ai lue quand j'étais toute petite, qui m'a beaucoup marquée, que j'ai adorée, mais je suis incapable de me rappeler qui était l'auteur de cette nouvelle. J'ai cherché pendant des années, je ne l'ai pas trouvée. Alors, je vais vous raconter l'histoire et vous allez peut-être pouvoir me donner un coup de main.
Ah, histoire est такая. Человек приходит к своему другу, пожилому ученому, у него там прекрасный сад, а в саду стоят какие-то коробки, ну, технические такие, как типа жестких блоков от компьютеров, в общем, коробки. Он спрашивает, а что это у тебя за коробки стоят? И ученый отвечает ему, а это у меня, это такие, они думают, что они люди, они не понимают, что они коробки. Вот эта коробка, например, она думает, что она прекрасная девушка, что она гуляет там со своим молодым человеком, ну, я не помню детали, да, по саду, она собирается выйти за него замуж. А вот эта коробка, это чья-то там мать, троих детей. Ну, в общем, рассказывает про каждую коробку, о том, что эта коробка себя вот так мыслит, как человека внутри какой-то жизненной ситуации. А герой очень так напрягается, говорит, это же жестоко, ты зачем же, ну, это не, их жалко, да, как можно их заставить вот жить такой жизнью, хотя на самом деле они коробки, это все равно несравнимо с тем, как живем мы, ну, как я, например, живу. И тогда этот пожилой человек на него смотрит, говорит, а ты сам-то кто? И становится понятно, что он, собственно, тоже такая коробка и есть. Вот кто это написал, я не могу вспомнить.
Alors voilà l'histoire, c'est un homme qui vient voir un ami qui est un scientifique plutôt âgé et qui a dans son jardin tout un tas de boîtes, bon, ça ressemble un peu à des disques durs d'ordinateur, enfin c'est des boîtes quoi, qui sont dans son jardin et il lui demande mais quelles sont ces boîtes ? Et il dit, bah, le scientifique lui répond, eh ben, écoute ce sont des boîtes qui se prennent pour des êtres humains. En fait, par exemple, cette boîte-ci, c'est une jeune fille romantique, un amoureux, elle projette de l'épouser très bientôt, celle-ci, c'est une mère de famille, elle a trois enfants, etc., etc. Et il raconte les histoires des différentes boîtes. Et là, notre héros, il dit au scientifique, mais c'est extrêmement cruel, mais on ne peut qu'avoir pitié de ces personnes, mais comment oses-tu leur imposer ça ? Parce que finalement, leur vie, même s'ils vivent... où il s'imagine tout un tas de choses, elle ne peut pas être comparée à la nôtre. Et là, le scientifique le regarde et lui dit « Et toi, qu'est-ce que tu crois que tu es ?» Et là, on comprend que lui, il est l'une de ces boîtes, finalement.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le public dont...
Никто не знает, кто автор этой истории.
Добрый день.
Добрый.
Добрый день. Un, deux, trois.
Non.
Un, deux, trois.
Non, ça marche.
Bon, vous m'entendez?
Oui.
Добрый день, Anna.
Добрый день.
Dans votre roman, Le Vivant, avez-vous pensez à l'histoire du tsar Ivan Grozny et de ses opritchniki. Le tsar Ivan Grozny n'avait-il pas, le tsar Ivan Grozny n'avait-il pas avec son système Oprichnina, son système totalitaire de l'époque, déjà pensé à un système féroce pour contrôler sa population? Et dans votre roman Le Vivant, avez-vous pensé justement à Ivan Grozny, un tsar très shakespearien? Спасибо.
Очень интересный вопрос, интересный поворот. Ну, я вам честно скажу, вот прямо так прицельно про Ивана Грозного я не думала, когда писала «Живущего», но, конечно же, действительно, при Иване Грозном была создана вполне себе классическая тоталитарная такая социальная структура, да, общественное устройство. И если додумать, да, если эту вот условно тоталитарную такую Россию образца Ивана Грозного перенести в будущее, да, и всех опричников подключить к единой социальной сети виртуальной, то да, получится что-то вроде «Живущего». Другое дело, что мне кажется, этот, ну, тот мир, да, который я описываю в книге, это не чисто русская тоталитарная такая схема, она универсальная, на самом деле, она. Это тоталитарная как бы система, которая актуальна сейчас абсолютно для всего человечества.
Alors, bravo pour votre question, elle est vraiment très intéressante. Pour être tout à fait honnête, non, au moment de l'écriture, je n'ai pas pensé à Ivan Grozny, mais effectivement, si on prend cette structure sociétale qui existait du temps d'Ivan Grozny, qui était en état totalitaire, comme vous l'avez si bien dit, et si on la transpose dans le futur et qu'on prend chaque opritchnik et qu'on le branche à un réseau social unique, eh bien, on obtient une société qui est tout à fait similaire à ce qui est décrit dans Le Vivant, mais ce qui est décrit dans Le Vivant, ça n'est pas, la Russie n'est pas l'apanage de ce système totalitaire, finalement. C'est quelque chose qui guette le monde entier et pas uniquement la Russie aujourd'hui, à mon sens.
Est-ce qu'il y a encore une dernière brève question, s'il faut ?
Oui, pour justement toujours sur le vivant. Sur le vivant, c'est vrai qu'on a l'impression aussi dans cette œuvre qu'il y a certains bienfaits finalement dans ce régime autoritaire, et surtout sur la fin du roman, qu'on ne va pas dévoiler évidemment, mais je trouve que ça interroge sur... est-ce qu'il y a une forme de morale que vous avez voulu mettre sur les avantages qu'on peut voir dans ce régime autoritaire ?
Ну, вообще, в любой антиутопии сложившаяся система тоталитарная имеет, конечно же, свои преимущества. Если бы у нее не было вообще никаких преимуществ, она бы, надо думать, просто не сложилась, да, и не, ну, тоталитарного строя всегда есть высокая идея, и эта идея всегда звучит очень хорошо, на первый взгляд. Идея в этом романе тоже звучит отлично. Она, собственно, сводится к тому, что человечество бессмертное, раз это теперь единый организм с такой постоянной ротацией внутри, смерти нет. Это замечательная идея, все хотят быть бессмертным. Но так же, как каждую антиутопию, да, в итоге все-таки это выворачивается наизнанку, и становится ясно, что и смерть на самом деле есть, и все равно всякое тоталитарное устройство, да, как бы та, ну, гниль, которая заложена изначально в сердцевине вот как бы этой идеи, возможно, очень прекрасной, да, она все равно рано или поздно разрушит все.
Alors, effectivement, comme dans chaque dystopie, il y a des avantages. Un système totalitaire présente des avantages. Hein, ça se base sur une idée... qui est attrayante, sinon un système totalitaire n'existerait pas. Et bien sûr, dans ce roman également, il y a cette idée qui a l'air magnifique, et c'est l'idée de l'immortalité du vivant, puisque il y a un organisme unique, et cet organisme unique est immortel, il est jeune, il est sain, donc la mort n'existe pas, et personne ne veut mourir, donc c'est une idée qui est très séduisante. Mais, encore une fois, comme dans chaque... dystopie, il y a l'envers de cette idée, c'est que ce système, eh bien, il s'autodétruit quelque part. La mort, elle existe, comme on le découvre, et cette pourriture qui est comprise finalement dans le cœur même de toute idée totalitaire, eh bien, elle sort et elle détruit tout sur son passage.
Vu l'heure approchante, c'est la fin de notre rencontre. On vous remercie de votre attention pour cet échange et on vous souhaite un bon festival.
Merci beaucoup, Sam.
Merci à tous d'être venus.